France Musique. France Musique, musicienne de légende, Marina Chiche.
Et bonjour, ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous estival autour des musiciennes de légende. Après plusieurs épisodes consacrés aux grandes violoncellistes, aujourd'hui, un numéro autour du piano. Trois grandes pianistes nées autour de l'année 1900, des destins qui se croisent de près ou de loin, des parcours de vie où la petite et la grande histoire se rencontrent, trois personnalités singulières qui s'inscrivent dans des filiations remarquables. Commençons tout de suite par notre première pianiste du jour, une véritable prêtresse de la musique, Maria Iudina. Sur France Musique, la pianiste soviétique Maria Iudina, dans le prélude pour orgue BWV 543 de Jean-Sébastien Bach, transcrit pour le piano par Franz Liszt. Maria Iudina, une prophétesse de la musique qui marqua son temps et suscita l'admiration de tous par ses interprétations profondes et singulières, des interprétations bien au-delà d'une lecture littérale de la partition. Maria Iudina était une femme d'un grand mysticisme, farouchement insoumise, ce qui lui vaudra d'être inquiétée par le régime à plusieurs reprises. Elle qui affichait ses convictions religieuses, soutenait les persécutés, qu'ils soient victimes des purges intellectuelles et religieuses des années 1920 ou de la grande terreur stalinienne des années 1930. une personnalité hors norme, amie avec les sommités de l'époque, que ce soit le philosophe Mikhaïl Bakhtine ou le poète Boris Pasternak. Mais reprenons au début. Née en 1899 à Nivelle, près de la Biélorussie, Maria Veniaminovna Yudina rentre à 13 ans au conservatoire de Saint-Pétersbourg. Rapidement, elle étudie avec la grande professeure Anna Yessipova. Yessipova avait été l'une des élèves les plus brillantes du grand pédagogue du piano, Théodore Leschetitsky. Une filiation qui remonte jusqu'à Beethoven, puisque Leschetitsky avait étudié avec Tcherny, un disciple du compositeur. Dès ses débuts dans sa ville natale à Saint-Pétersbourg en 1871, alors qu'elle a 20 ans, Anna Yessipova reçoit les éloges de Tchaïkovski et de Franz Liszt. On lui reconnaît une virtuosité sans effort et un grand lyrisme. Écoutons-la dans un document exceptionnel. Un rouleau de piano pneumatique, ce support d'enregistrement, une bande de papier perforé qui permet d'actionner un piano mécanique. Cela nous donne à percevoir le jeu de cette grande pianiste née au milieu du 19e siècle. Et cela confirme le jugement du célèbre critique anglais Bernard Shaw. La terrible précision de cette dame et son aplomb imperturbable, son dédain souverain des difficultés, sa vitesse miraculeuse.
Thank you.
Sur France Musique, la pianiste Anna Yesipova dans la très virtuose fantaisie de Thalberg sur un thème de la somnambule de Bellini. Thalberg qui était le grand rival de Franz Liszt. Anna Yesipova et son professeur Leschetizky se marièrent en 1880. Leschetizky formera par la suite de grands pianistes comme Paderewski, Schnabel ou Moiseevitch. Le couple divorce en 1892 et dès l'année suivante, Yesipova s'installe à Saint-Pétersbourg où elle devient professeure au conservatoire. Parmi ses étudiants figurent Isabelle Vengerova, future professeure de Leonard Bernstein, ou Anastasia Virsaladze, la grand-mère d'Eliso Virsaladze dont je vous parlais dans l'épisode précédent, ou encore un certain pianiste-compositeur, Sergueï Prokofiev. Vision fugitive de Sergueï Prokofiev, des œuvres écrites en 1915 et interprétées ici par Maria Yudina. Camarade de classe d'un temps chez Yessipova, Maria Yudina recroisera le chemin de Prokofiev lors de la création de son deuxième concerto à Kiev en 1933. Même si la version de Yudina diffère largement de la sienne, Prokofiev note dans son carnet qu'il en est ravi. À la mort de sa professeure, Anna Yessipova, en 1914, Yudina continue ses études à Saint-Pétersbourg. Après une interruption au moment de la Révolution de 1917, où elle s'engage politiquement, elle revient au conservatoire, 3 ans plus tard, dans la classe de Leonid Nikolaïev. Elle y fait forte impression aux côtés de son camarade Vladimir Sofronitsky, avec lequel elle partage le prix Rubinstein. Dans la classe, il y a cette fois un autre pianiste-compositeur, Dmitri Shostakovich. Yudina est déjà une femme très singulière, qui fascine. Shostakovich raconte « Elle était une de mes idoles. Parfois, j'essayais de jouer comme elle. Plus tard, j'ai compris que c'était une impasse, mais cela m'apporta beaucoup d'imiter quelqu'un d'un tel calibre artistique. » Yudina a déjà une manière d'appréhender la musique bien à elle. Elle pense au-delà du piano. Elle suit d'ailleurs la classe de direction d'orchestre de Nikolaï Tcherepnine, étudie l'orgue, les percussions, la théorie musicale. Juive de naissance, elle se convertit à 19 ans à la religion chrétienne orthodoxe. Elle porte de longues robes noires jusqu'aux pieds, avec une large croix. Tout cela lui donne une force spirituelle qu'elle transporte dans sa musique. Une singularité et une force de conviction qui s'expriment dans des choix de tempi iconoclastes, comme cette lenteur extrême dans le 4e impromptu de Schubert.
Thank you.
Sur France Musique, le quatrième impromptu Deutsch 935 de Franz Schubert par Maria Iudina. Une interprétation exceptionnelle. C'est littéralement inouï, tellement habité qu'une fois qu'on l'a entendu ainsi, c'est difficile de l'imaginer jouer autrement. D'ailleurs, quand elle jouera des préludes et fugues de Dimitri Shostakovitch, le compositeur, il lui dira « Ce n'est pas du tout ce que j'ai écrit, mais joue-le ainsi, c'est tellement convaincant. » Des goûts et des choix extrêmes que Maria Iudina assume pleinement, comme le raconte Sviatoslav Richter. Elle joua du Bach pendant la guerre, le prélude en si bémol majeur. Vite et fortissimo. Quand Heinrich Neuhaus vint la féliciter, il lui dit
«
Dites-moi s'il vous plaît, pourquoi vous jouez cela ainsi ?
Mais
c'est la guerre maintenant. » Voilà sa réponse. Ça, c'était typique de Iudina. Maintenant, c'est la guerre, c'est tout. Prélude et fugue en si bémol majeur de Bach par Maria Iudina, grande interprète de Jean-Sébastien Bach, qui fut d'ailleurs une des premières à jouer les deux livres du clavier bien tempéré en concert. Elle qui rêvait de devenir historienne, architecte ou infirmière, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale qu'elle se sent le mieux à même de remplir sa fonction sociale, apportant par des émissions de radio et des concerts du réconfort aux troupes et au peuple russe. C'est la guerre. Il y a un couvre-feu à 22h. Personne n'ose sortir dans les rues de Moscou. Mais et Iudina et le quatuor Beethoven peuvent sortir. Pourquoi ? Parce qu'ils doivent jouer en direct à la radio au milieu de la nuit pour que le monde entier sache que tout va bien à Moscou. En direct à 1h, puis à 2h pour diffusion à Londres, puis encore diffusion à Paris. Le quatuor Beethoven et Iudina jouent le quintet de Shostakovich, la truite de Schubert ou le trio de Tchaïkovski. Maria Iudina rejoindra aussi Leningrad pendant le siège en 1943. C'est une femme galvanisée par la grande histoire, comme le montre cette histoire légendaire avec l'homme d'acier Staline, une histoire assez invraisemblable rapportée par Shostakovich. Un soir, Staline écoute à la radio Maria Iudina dans le concerto numéro 23 de Mozart. Il demande qu'on lui procure l'enregistrement aussitôt. Mais voilà, c'était un concert en direct, il n'y avait donc pas eu d'enregistrement. Les officiels paniquent à l'idée de ne pas pouvoir satisfaire Staline. Se met alors en place une mécanique invraisemblable. Le concert n'a pas été enregistré ? Qu'à cela ne tienne, on va produire le disque dans la nuit. On réveille Iudina pour la conduire au studio où un petit orchestre rapidement assemblé l'attend, prêt à enregistrer le concerto dans la nuit. On prépare même une étiquette et le disque est remis le lendemain matin à Staline, qui fond en larmes dès les premières notes. « Staline enverra une enveloppe avec la somme astronomique de 20 000 roubles à Maria Yudina. En retour, elle lui écrit une lettre. « Je vous remercie pour votre aide, Yosef Vissarionovitch. Je prierai pour vous jour et nuit, en demandant que Dieu vous pardonne pour tous les grands péchés que vous avez commis devant votre peuple et votre pays. Dieu est miséricordieux, il vous pardonnera. J'ai donné l'argent à ma paroisse. » Sur France Musique, le 23e concerto de Mozart par la pianiste légendaire Maria Yudina avec l'orchestre de la radio de Moscou dirigé par Alexander Gauck en 1948. Une musicienne au service de Dieu et de la musique. Yudina, en plus de servir Bach, Mozart, Schubert ou Beethoven, va devenir une prophétesse de la musique contemporaine. De 1959 à sa mort en 1970, elle entretient une riche correspondance avec Pierre Soufchinski, homme de lettres et mécène. C'est Pasternak qui a donné l'adresse de Soufchinski à Yudina. Elle le supplie de lui faire parvenir toutes les partitions disponibles de Webern, Stravinsky, Boulez ou encore Martinou. Thank you. The Fifth Day of the Fifth Moon, le cinquième jour de la cinquième lune de Martinou, par Maria Iudina, un enregistrement de 1961. Dans les années 60, Iudina construit des programmes allant de Bach à Alban Berg. Elle joue du Bartok, Hindemith, Stravinsky, qu'elle adore. Sur France Musique, d'Igor Stravinsky, Circus Polka, arrangé pour deux pianos et interprété ici par Maria Iudina et Maria Drozdova, une de ses élèves. Enseignante inspirée, Iudina fut renvoyée de toutes les institutions où elle enseigna, tant à Leningrad qu'à Moscou. On l'accusait de pervertir la jeunesse soviétique. Il faut dire qu'elle ne ménageait pas ses provocations au régime en jouant des compositeurs interdits comme Bartok ou Hindemith, en faisant le signe de croix avant chaque concert ou en allant jusqu'à lire parfois des poèmes de Pasternak sur scène. Des provocations que nul ne se serait risqué à commettre et qui auraient pu la conduire en prison. Maria Iudina sera privée de concert pendant une période de 3 ans. Jusqu'à la fin de sa vie, elle vécut dans le dénuement le plus total. Et quand elle empruntait de l'argent, c'était pour prêter à d'autres encore plus démunis qu'elle. D'ailleurs, on raconte que dès le lendemain de sa mort, son piano, un Bechstein de location, fut aussitôt enlevé de chez elle. Elle était criblée de dettes. En Occident, ce n'est que de manière posthume qu'elle sera découverte grâce à ses enregistrements. Des enregistrements où sa spiritualité et son sens de l'architecture transparaissent. Elle qui disait « Je ne connais qu'un seul chemin vers Dieu, celui de l'art ».
Thank you.
Sur France Musique, une interprétation transcendante de la sonate opus 111 de Beethoven par la pianiste soviétique légendaire Maria Yudina.
France Musique, musicienne de légende, Marina Shish.
Après Maria Yudina, voici une autre pianiste de la même génération qui laissa des traces exceptionnelles comme interprète puis comme professeur. Née à Lviv, en Ukraine, en 1902, Lubka Kolesa grandit dans une famille d'intellectuels. Son père est recteur d'université et député, et son oncle, ethnomusicologue, spécialiste de musique traditionnelle ukrainienne. C'est de sa grand-mère, pianiste, une élève d'un disciple de Frédéric Chopin, qu'elle reçoit sa première éducation musicale. En 1904, la famille déménage à Vienne, où Lubka suit les cours de Louis Tern et d'Emil von Sauer, des élèves de Franz Liszt. À 18 ans, elle obtient son diplôme à la Musikakademie viennoise et prend à nouveau des cours, cette fois-ci avec Eugen Dalbert, brillant pédagogue, également un disciple de Franz Liszt. Il formera Wilhelm Backhaus ou Edwin Fischer. Lubka Kolesa obtient le prix Bösendorfer et le prestigieux Staatspreis, la plus haute distinction autrichienne d'alors.
Thank you.
Sur France Musique, la pianiste Lubka Kolesa dans les arabesques sur le beau Danube bleu de Johann Strauss fils, un arrangement virtuose du pianiste viennois Schulz Eveler. La réputation de Lubka Kolesa grandit rapidement et en 1924, à 22 ans, elle fait ses débuts avec le Philharmonique de Berlin. Elle sera bientôt accompagnée des meilleurs orchestres et chefs du moment, Wilhelm Furtwängler, Bruno Walter, Richard Strauss, Erich Kleiber ou encore Carl Böhm.
Thank you.
Sur France Musique, le troisième concerto de Beethoven avec la pianiste Lubka Kolessa, la Staatskapelle de Dresde, dirigée par Karl Böhm. Un enregistrement de 1939. Dans les années 20, Lubka Kolessa fait des tournées triomphales dans l'Ukraine, alors soviétique. Très attachée à son pays, elle portera même une tenue traditionnelle ukrainienne lors d'un concert retransmis à la télévision britannique. Elle enregistre pour le label His Master's Voice et parcourt l'Amérique du Sud, puis l'Europe jusqu'en 1939. Elle épouse alors un diplomate britannique à Prague, juste avant le début de l'occupation allemande. En 1940, au sommet de sa carrière, elle déménage à Ottawa. Toujours très demandée, elle fait ses débuts à New York en avril 1943 à Town Hall, puis à Carnegie Hall avec le Philharmonique de New York, tout en enseignant dans de grandes universités canadiennes. Dès 1954, à l'âge de 52 ans seulement, elle décide de se consacrer entièrement à l'enseignement. Une grande musicienne qui inspire des générations de pianistes.
Thank you.
sur France Musique. Un sens du timing sublime, une mobilité subtile dans cette interprétation magistrale de l'intermezzo opus 117 numéro 1 de Johannes Brahms par la grande pianiste Lubka Kolesa.
France Musique, musicienne de légende, Marina Schiche.
La troisième grande pianiste du jour a un parcours de vie incroyable. Une histoire digne du joueur d'échecs de Stefan Zweig, ou plutôt de l'archipel du goulag d'Alexander Solzhenitsyn. Née à Turin en 1901, la pianiste Vera Lothar grandit à Paris où ses parents enseignent à la Sorbonne, les mathématiques pour son père, les langues et la littérature pour sa mère. Vera devient l'élève d'Alfred Cortot avec lequel elle travaille Chopin et Debussy, puis se perfectionne à Vienne. De retour à Paris, elle épouse un fonctionnaire soviétique et devient Vera Lothar Shevchenko. En 1938, le couple émigre en Union soviétique. Grâce à Maria Yudina, son amie, elle commence à travailler à la Philharmonie de Leningrad. Mais voilà, les temps sont durs. Son mari est arrêté. Arrestation suivie de peu par la sienne. Condamnation à 13 ans dans un goulag stalinien. Elle est pourtant innocente. Pendant ces longues années, son seul instrument de musique est une planche qu'elle a découpée avec un couteau de cuisine dans le bois de son lit. Vera joue de ce piano silencieux pendant des rares moments libres. Elle organise aussi des concerts extraordinaires pour les autres prisonnières sur des pianos droits de fortune, largement désaccordés. Après sa sortie du camp, elle reprend une activité de pianiste de premier plan et joue dans les plus grandes villes d'Union soviétique. Elle s'installe à Novossibirsk. Voilà son enregistrement des études de Chopin. Un véritable déferlement de passion et une grande poésie avec une technique suprême. Inimaginable alors qu'elle a les doigts déformés par des années de froid glacial et de dur labeur au goulag.
Thank you.
sur France Musique, un extrait des études de Chopin par la pianiste Vera Lothar Shevchenko. Cette grande pianiste, victime des purges staliniennes, préféra rester en Sibérie toute sa vie, même si elle aurait pu rentrer à Paris. Cela aurait été pour elle une trahison à la mémoire de ces femmes russes qui l'avaient tant aidée pendant sa période infernale au goulag. Sur sa pierre tombale à Novosibirsk, on peut lire les propres mots de Vera Lothar. « Béni soit la vie avec la musique de Bach ». Ce sera justement Bach et son interprétation qui seront au cœur de notre prochain épisode. Merci à toute l'équipe, Françoise Cordet, Florian Hainaut et Pierre Monteil. Cet épisode ainsi que tous les épisodes sont disponibles à la réécoute sur le site de France Musique et en podcast sur l'appli Radio France. On se dit à dimanche prochain, 16h.
À réécouter sur francemusique.fr.